Bonjour Mathieu, bonjour l'équipe, c'est Philippe de Bruxelles. Je travaille comme journaliste, copie, conseiller en communication et la semaine passée, coup sur coup, j'ai refusé deux jobs qui avaient pour but de verdir quelque part le message d'une part d'un grand pétrolier mondial et d'autre part d'une banque franco-belge qui finance beaucoup d'explorations pétrolières. C'était pas forcément évident, je l'ai fait avec une boule au ventre, être copywriter indépendant, c'est pas toujours facile au niveau financier, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Et pourtant, tout de suite après avoir accroché, je me suis senti super bien. J'en ai tiré quelques enseignements, notamment que la pression au greenwashing, elle est bien là, mais aussi surtout qu'il ne faut pas avoir peur d'aligner ses choix sur ses convictions. Deux jours plus tard, la même agence m'a rappelé pour écrire des articles sur le développement durable. Voilà, merci, bon courage, à bientôt.
Bonjour, François de Hoche. Le premier jour des vacances des enfants, cet été, dans la cour de l'école primaire, tous les arbres de l'école ont été abattus pour refaire le sol de la cour. Dès que je m'en suis aperçu, j'ai contacté la mairie. On m'a d'abord affirmé que les arbres étaient malades. Comme il y en avait 8 et qu'ils n'étaient pas tous de la même essence, j'ai émis des doutes. On m'a affirmé que le diagnostic était indépendant, mais non consultable. Notre service m'a dit que le tout à l'égout et les eaux pluviales étaient remplis de racines. Excuse suivante, les arbres allaient tomber sur les enfants, etc., etc. La mairie n'est pas fière, car on est dans le sud-ouest et que la canicule a été violente. Plusieurs jours, on a senti le feu des Landes. Ils viennent juste de remettre des arbres, mais pas l'ombre qui va avec. Mais la mairie s'est communiquée. Dernièrement, elle a fait poser une passerelle pour piétons et vélos qui enjambent le Gers. L'appel d'offres était création d'une passerelle en aluminium et patelage en bois exotique imputrescible. Pourquoi en alu? Pourquoi exotique? C'est pas gagné.
Bonjour Véronique de Salagnon. Alors tout d'abord, félicitations à toute l'équipe pour le travail que vous faites. Et merci aussi pour cette très belle émission qui a eu lieu hier soir aux Arbres Citoyens. Par contre, une petite remarque, j'ai été très surprise qu'aucun des spectateurs ne puisse nommer 10 arbres qu'il connaissait. Je me suis amusée à ce petit jeu et moi j'en ai dénombré 15 dans mon jardin. Alors peut-être une action pédagogique pour faire connaître à tous les arbres, les animaux, les plantes. Ça serait un bon commencement, effectivement, pour sensibiliser tout le monde à la biodiversité, à la nature, etc. Merci à tous et très belle émission. Au revoir.
Bonjour, c'est Gilou de Léognan. Je n'aime pas du tout l'idée de rapprochement entre le Téléthon et aux arbres citoyens que vous appelez le Télétron. Le Téléthon a pour but de récolter les dons, qui sont malheureusement le seul moyen de compenser les budgets publics insuffisants pour la recherche scientifique. Aux arbres citoyens, on doit réveiller la conscience des citoyens pour combattre toutes les exploitations abusives des forêts, l'huile de palme, coupe rase, et aussi les projets inutiles ou inappropriés. Des dons pour financer des groupements forestiers citoyens, d'accord, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Aux arbres citoyens n'est pas un télétron. Bravo quand même pour votre émission sur les arbres, que vous auriez pu appeler Racine au carré.
Ah, très bon, Gilou, ce Racine au carré. On prend aussi d'ailleurs ce titre. On le met dans notre besace, on pourra un jour s'en servir. Merci beaucoup pour vos messages. Continuez bien sûr à nous appeler sur ce répondeur pour nous informer, nous interpeller, nous engueuler ou nous dire aussi vos mots doux au 01 56 40 45 45. Depuis l'avènement de la science moderne, l'homme n'a cessé de vouloir améliorer les conditions matérielles de son existence en allant toujours plus loin dans sa conquête de la nature. Et l'expression « on n'arrête pas le progrès » incarne bien cette recherche d'évolution constante vers un mouvement en avant, grâce en particulier aux innovations techniques. Mais aujourd'hui, avec la crise écologique que nous traversons et les défis qui sont posés à notre humanité, cette notion de progrès est largement remise en cause et questionnée. La croissance, le productivisme, le consumérisme longtemps élevé au rang de valeur cardinale ne brille plus de mille feux à l'heure d'une sobriété qui fit figure de nécessité. De tout temps, le progrès, on va le voir, a suscité autant d'anxiété que d'espoir. Et c'est ce que rappelle un livre, On arrête parfois le progrès, histoire et décroissance, qui est sorti aux éditions de l'Échappée et que vous signez François Jarige. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui êtes historien, maître de conférences à l'Université de Bourgogne, avec avec cet ouvrage qui reprend des articles que vous aviez signés dans le journal La Décroissance. On va donc se retrouver dans un instant pour interroger la notion de progrès entre lampe à huile et technosciences. On va voir comment l'histoire justement nous éclaire sur la situation de notre planète aujourd'hui. Auditrices et auditeurs de l'émission, nous attendons bien sûr vos questions pour François Jarry sur le site de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30 avec un sujet qui fera sûrement réagir notre invité.
Oui, l'exploitation justement des fonds marins, exploitation à ne pas confondre avec exploration. Là, il s'agit vraiment d'aller racler le plancher océanique pour ses minerais, histoire de fabriquer par exemple nos batteries et faire du profit au passage. Nouvel Eldorado contre lequel Emmanuel Macron s'est prononcé lundi.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayessara et préparée par Anna Massardi avec Paola Collin à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Comme tous les ans et comme d'habitude au rond-point de la Défense, le 37e Salon des Arts Ménagers s'est ouvert mardi. Confort, progrès, gadgets. L'équipement ménager se perfectionne d'une année à l'autre. Jusqu'où cela ira-t-il ? Pensez-vous qu'en l'an 2000, dans 32 ans, votre façon de vivre sera encore modifiée par de nouveaux progrès de la technique ?
Voilà, confort et progrès. Et donc, plus de 50 ans plus tard, François Jarry, vous interrogez nos sociétés modernes dans ce livre. On arrête parfois le progrès, histoire et décroissance aux éditions de l'Échappée. Alors, je le disais, c'est un recueil en réalité d'articles que vous avez signés pendant presque une décennie, 2012-2021, dans le journal La Décroissance, avec plusieurs chapitres, donc sur les précurseurs d'abord, les figures oubliées, une partie sur l'état du monde au temps des ravages écologiques, une autre sur la démystification des fausses solutions et du greenwashing. On en a beaucoup parlé déjà dans l'émission. Et puis pour terminer, des réflexions sur les bifurcations possibles. Alors justement, vous qui êtes historien, lorsqu'on regarde cette décennie-là qui vient de s'écouler, qu'est-ce qui la caractérise selon vous? Et est-ce qu'elle marque un tournant particulier dans l'histoire de nos sociétés?
C'est une question très difficile. J'aimerais dire que la décennie qui vient de s'achever a marqué un tournant, une sorte de prise de conscience qui permettrait de créer les conditions pour changer. Mais ce que a montré quand même les 10 dernières années, c'est plutôt une accélération de tous les processus antérieurs. C'est-à-dire les consommations d'énergie fossile à l'échelle globale ont continué d'augmenter, les dégradations ont continué dans tous les domaines écologiques. Ce qui est nouveau, sans doute, c'est que la question climatique, qui était déjà très présente il y a 10 ans, on a tendance à oublier parce que on a une amnésie permanente, et c'est ça aussi l'intérêt de l'histoire, de se rappeler les situations antérieures. Alors, il y a 10 ans, la question climatique était déjà très présente, et aujourd'hui, elle est devenue incontestable, inéluctable. Il y avait encore quelques climato-sceptiques en 2010, même s'ils étaient déjà plus très nombreux. Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. Donc, ce qui a changé, c'est la question qu'aujourd'hui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est-à-dire que le constat sur la situation écologique dramatique est fait. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Or, ce qui est dramatique, c'est que les solutions qui sont proposées aujourd'hui ont assez peu changé. Et on continue d'être dans une sorte de course en avant. On croit que l'innovation va résoudre le problème. On croit qu'on va substituer telle ou une énergie à une autre, avec toutes les promesses qu'on présente aujourd'hui dans les médias. Ouais. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est d'une certaine manière, il y a eu quand même une prise de conscience hein, chez des nouvelles générations, chez plein d'acteurs qui auparavant niaient la réalité du phénomène. Et en même temps, les solutions qui sont apportées au problème restent à peu près les mêmes. Malgré les discours, malgré les belles paroles qu'on trouve dans les discours politiques aujourd'hui, la situation, en fait, reste la même. C'est ça qui est assez dramatique, je trouve, si on essaye de faire le bilan de ces 10 dernières années.
Alors, vous dites que le climato-scepticisme n'existe plus vraiment. Ça reste à prouver parce que les enquêtes montrent aux États-Unis, par exemple, et même en France, hein, qu'il y a encore du climato-scepticisme. Et puis on est passé à autre chose, on a glissé aussi vers un climato-rassurisme. Donc il y a d'autres formes finalement de scepticisme.
Hein. Non mais vous avez raison, j'essaye de me rassurer moi-même en disant qu'il n'y a plus de climato-scepticisme. En réalité ce qui est pire, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y en a encore. Alors je pensais plutôt au débat intellectuel français. C'est-à-dire aujourd'hui dans les médias, un intellectuel ou un scientifique qui viendrait avec un discours climato-sceptique serait immédiatement mis de côté et peu écouté. La situation est sans doute très différente dans d'autres contextes aux États-Unis. Mais par ailleurs, vous avez raison. C'est-à-dire cette reconnaissance de la réalité du changement climatique ne résout pas le problème. Parce que aujourd'hui, il y a d'autres manières de créer une forme de climato-scepticisme. L'une, c'est de dire que en fait, l'enjeu, c'est pas de changer nos modes de vie, changer nos organisations sociopolitiques, c'est de s'adapter au changement climatique, qui est une petite musique qui est en train de s'installer. Donc l'enjeu aujourd'hui, ça va pas être de réduire nos émissions en réalité, ça va être de trouver les conditions de s'adapter et pour sauver ce qui peut l'être de notre mode de vie dans le contexte du réchauffement climatique.
Et enfin, ça, c'est assez terrifiant. L'enjeu, c'est quand même de baisser nos émissions de gaz à effet de serre quand même aujourd'hui.
Hein. C'est ce qui est annoncé officiellement, mais je ne vois aucune mesure concrète qui va dans le sens d'une décarbonation. nation. Ah bah, bien sûr, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parle du mot décroissance dans le livre. C'est un mot qui était encore considéré comme inaudible il y a quelques années, et aujourd'hui, il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire décroître nos consommations matérielles, c'est-à-dire transformer en profondeur nos manières de vivre, nos manières de nous organiser.
Donc c'est incompatible avec le produire plus que disent certains dirigeants.
La réponse au changement climatique qui est en train de se présenter, c'est d'une part s'adapter, d'autre part produire plus. C'est-à-dire relancer une logique de l'innovation et du progrès qui permettrait de résoudre les impasses et les ambivalences de la société industrielle ancienne.
Donc qu'on va produire plus, mais propre. Donc
mais
ça va tout changer.
Oui, mais l'historien vous dira, il n'y a rien de neuf. C'est ce qu'on disait dans les années 70, c'est ce qu'on disait dans les années 1930, c'est ce qu'on disait dans les années 1890. Le système capitaliste et le système technique va devenir plus innovant pour résoudre les contradictions et les problèmes du système antérieur. Et à chaque fois, ce nouveau système technique qui s'est installé a créé de nouveaux problèmes écologiques. C'est tout le drame du numérique. Le numérique, rappelez-vous que dans les années 80, il a été présenté comme une solution aux impasses de la vieille société industrielle en inventant une société immatérielle, une société fluide, où précisément on sortirait du vieux carbo fossile antérieur. Or, qu'est-ce qu'on découvre au début du XXIe siècle?
C'est qu'il crée lui-même de la pollution.
C'est qu'il crée lui-même de la pollution. Massive. Parce que le numérique a déplacé les problèmes, a créé de nouveaux problèmes, sans jamais résoudre les problèmes antérieurs. C'est l'histoire, le drame de la modernité capitaliste qui accumule les dégradations environnementales en faisant croire qu'elle va résoudre les problèmes environnementaux.
Alors François Jarry, c'est l'une des grandes vertus de votre discipline, l'histoire qu'on n'interroge pas assez finalement parce qu'elle nous permet aussi de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et c'est la grande vertu précisément de vos articles. Et au sujet du progrès, c'est vraiment passionnant parce que vous dites que ça s'est toujours construit finalement avec deux faces, l'une qui est synonyme finalement d'enchantement et de confort et de l'autre, au contraire, d'effet néfaste sur les humains et l'environnement. Le progrès depuis le départ dans nos sociétés modernes, ça a toujours été avec ces deux combinaisons-là.
Oui, je crois. Bah, peut-être qu'il faut dire un mot de ce qu'on appelle le progrès. Moi, je suis historien des sociétés industrielles. Je m'intéresse pas aux grandes catégories trop abstraites et trop floues, comme l'est le progrès. C'est une catégorie idéologique qui sert surtout à fermer le débat. Faudrait revenir en deux mots d'où vient ce mot. Il y a plusieurs étapes. Le progrès, c'est un mot qui vient du latin, qui désigne dans un premier temps aller de l'avant. On l'utilise dans le langage militaire. Ça veut dire aller de l'avant, mais sans signification d'amélioration. C'est un constat objectif. On va de l'avant, une armée progresse. Bon. Le mot a commencé à être doté d'une valeur positive, dans le sens d'une amélioration, c'est-à-dire le progrès va dans le sens d'une amélioration à partir de la Renaissance et jusqu'au XIXe siècle. Mais cette amélioration n'était pas corrélée à un accroissement des forces productives et à un meilleur contrôle de la nature, par exemple. Cette amélioration, ça pouvait être une amélioration des rapports sociaux, une amélioration de la société, des savoirs, des connaissances. Bon, il y a un troisième sens qui s'est installé au milieu du XIXe, en fait, assez tardivement, qui a corrélé le progrès, en fait, à l'expansion des forces productives, à l'expansion de la technique, à l'expansion de la maîtrise scientifique du monde, avec l'idée que ces savoirs scientifiques et techniques allaient permettre de dépasser les blocages, les apories, les fragilités qui caractérisaient les sociétés. Et c'est constitué ce qu'on appellerait une nouvelle théologie ou une nouvelle religiosité autour de cette catégorie de progrès qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, puisque chaque progrès s'accompagne toujours de regrets. Le progrès, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans, qui le catégorise, qui le considère comme tel, qui considère que telle chose sera du progrès, pour qui. Donc en fait, il faut ouvrir cette boîte noire.
Ouais, mais le progrès là dont on parle, c'est bien celui de nos sociétés industrielles.
Donc,
finalement,
depuis le milieu du 19e siècle, le progrès en fait a été ramené au progrès des systèmes techniques et de notre capacité à maîtriser nos milieux de vie par des outils, des dispositifs de plus en plus puissants. Alors, pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas encore répondu, en fait, oui, à chaque fois, il y a eu autant de débats. C'est-à-dire que jamais personne n'a vraiment cru. Je pense que l'histoire des 150 dernières années, c'est une série de cycles, de contextes de croissance modernisatrice euphorique autour du progrès, suivi de moments de désenchantement, d'interrogation. Mais dès le début, en 1850, lorsqu'est formulée l'idée de progrès de façon, commence à être formulée très stricte, il y a des intellectuels qui écrivent à l'époque que le progrès devient une sorte de mouvement inéluctable, linéaire, auquel il faut s'adapter et qu'on ne peut pas réguler. Il y avait déjà plein d'acteurs qui disaient que le progrès était un fanal obscur pour parler comme Baudelaire, ou Fourier, j'aime beaucoup, dans les années 1830-40, quand on commence à parler du progrès à tout va, dit derrière ce jargon de progrès, il y a des choses qu'il faut essayer d'explorer. Et en fait, c'est en permanence...
Il y a des termes très sévères, hein. Vous citez un certain nombre de sceptiques justement par rapport au progrès, qui parlent d'appauvrissement de la vie, du mythe de la machine et de la démesure de l'orgueil des Occidentaux.
Hein. Là, vous faites référence notamment à Lewis Mumford, par exemple, Gunther Anders, toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de pensée critique du progrès. Donc, comme je disais, il y a des moments d'euphorie modernisatrice, d'affirmation du progrès et des moments de contestation. Ouais. Pour lever justement les contestations, on réaffirme le progrès.
Exemple très intéressant parce que vous l'illustrez, la fumée des usines de charbon par exemple au 19e, évidemment on y va à fond les ballons et parallèlement les riverains entre autres se plaignent des effets pénibles de ces fumées. Et là, comment on répond à ça?
par le progrès technique, c'est l'invention du technosolutionnisme via les techniques de dépollution. Mais ça, c'est ce que peut apporter l'histoire. Il ne s'agit pas de dire que les choses ont toujours existé, mais il s'agit de bien se rappeler que la prise de conscience environnementale n'est pas une innovation récente, elle n'a cessé d'accompagner la société industrielle. Dans les années 1850-60, la question des fumées, des pollutions de l'air, fait déjà un vaste débat. Alors, à d'autres échelles, avec d'autres sujets qu'aujourd'hui, mais fait déjà l'objet d'un vaste débat. Face aux riverains qui se plaignent des fumées, qu'est-ce qu'on leur répond? Notamment les ingénieurs des mines qui deviennent les pilotes des politiques à l'échelle locale. Ben, les ingénieurs des mines disent on va résoudre le problème par des techniques de dépollution. C'est les fameux fourneaux fumivores au 19e siècle, sur lesquels a beaucoup travaillé un ami qui s'appelle Thomas Leroux. Et les fourneaux fumivores, c'est des techniques de dépollution.
On va manger la fumée.
On va manger la fumée, donc on ne rejettera plus de fumée, donc il n'y aura plus de problème. Mais je rappelle qu'il s'est passé la même chose dans les années 70. Dans les années 70, il y avait déjà des manifestations de jeunes devant les salons de l'automobile aux États-Unis dénonçant les pollutions automobiles. Dans la presse automobile, il y avait l'idée qu'en 2000, il n'y aurait plus de pollution automobile grâce au progrès à la fois de la motorisation et grâce aux techniques de dépollution.
C'est ce qu'on nous dit pour la captation de carbone. Encore aujourd'hui d'ailleurs.
C'est ce qu'on a dit, on pourrait multiplier les exemples, c'est incroyable. Le charbon propre, le pétrole propre,
le gaz naturel
gaz naturel a été présenté comme une solution écolo face au pétrole.
Le pétrole naturel qu'on peut dire aussi. Question sur la sémantique, vous parlez de progrès, c'est un mot qu'on entend peut-être un peu moins en ce moment, mais on entend beaucoup le mot innovation. Est-ce que c'est une nouvelle façon de présenter quelque chose encore plus positivement, parce qu'on innove et donc forcément c'est génial?
Oui, bien sûr. Le langage, je pense, est très important dans toute cette histoire, surtout aujourd'hui, parce qu'on est piégé par des mots creux qui sont manipulés par différents acteurs qui ont un intérêt à manipuler ces mots et à démonétiser le sens des mots. Et évidemment, le progrès est toujours associé à un ensemble de termes pour le qualifier. Au 19e siècle, lorsqu'il apparaît, on parle de machine, du machinisme. Le machinisme, c'est le sens du progrès. Aujourd'hui, on parle de l'innovation. Mais c'est un mot qui est apparu dans les années 80 en réponse justement au fait que les vieux termes comme mécanisation, automatisation, machinisme n'avaient plus vraiment de sens à partir des années 70. Donc le mot innovation a été promu. Il faut rappeler que jusqu'au 19e, le mot innovation était perçu très négativement. C'était l'introduction de quelque chose de dangereux pour l'existant. Le mot innovation a changé de signification au 20e siècle et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où il est devenu une sorte de terme quasiment totémique qu'on emploie dans tous les sens pour ne rien dire. On pourrait multiplier les exemples. Le mot start-up qui est une sorte de variation de l'innovation. Le start-up, c'est l'entreprise qui doit innover, qui est apparue il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qui aujourd'hui n'est plus questionné, comme si ça allait de soi, alors que ça fait partie de ces mots idéologiques qui nous empêchent de penser, je pense. C'est ça le problème.
François Jarige, on se retrouve dans un instant, on va parler de cette critique du progrès et de son corollaire, la décroissance. David Walters.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Un bon discours sexiste et paternaliste à la fois, le général de Gaulle en 1965, François Jarige, vous qui êtes notre invité historien, au moment où paraît votre ouvrage, on arrête parfois le progrès. Un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. C'est en 65, hein, évidemment, il faut le replacer dans son contexte.
Bien sûr, on est en plein milieu des 30 glorieuses, de réorganisation du système économique, de course à la frénésie consumériste, et le général de Gaulle incarne aussi une génération antérieure. Mais les années 50-70 sont une période très intéressante parce que ça correspond à ce cadrage modernisateur et cette relance du progrès. Il faut se rappeler que dans les années 30, plus personne ne croyait au progrès. Les critiques écologiques, sociales, des contradictions du capitalisme étaient déjà omniprésentes. La Seconde Guerre mondiale et la reconstruction et la relance de la croissance après 1945 a créé pendant 20 ans une sorte d'euphorie et de confiance incroyable dans la capacité de la modernité technique à résoudre tous les problèmes. Et ce discours du général de Gaulle est en plein dans ce moment-là. Quoi.
Alors François Jarige, on l'a vu avec vous, il y a toujours eu donc des critiques aussi du progrès depuis le départ, mais est-ce que finalement, malgré toutes ces forces d'opposition qui ont voulu barrer la route d'une certaine façon au progrès, il ne faut pas se résoudre au constat que c'est toujours globalement le progrès qui triomphe?
Oui, mais peut-être que, moi je pense que, bon, j'ai employé le terme dans le titre du livre, donc je ne peux pas le nier, je ne peux pas le repousser, mais je crois que le progrès, en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. C'est-à-dire que le progrès, ça ne veut strictement rien dire. C'est un certain rapport au temps. Chaque société entretient un rapport au temps, c'est-à-dire une relation entre le passé, le présent et le futur. Dans notre société, dans certaines sociétés, c'est cyclique. Dans certaines sociétés, c'est un déclin. Dans certaines sociétés, c'est une stabilité. Dans notre métaphysique moderne et dans notre représentation du temps, c'est cette flèche du temps qui va vers le mieux, qui s'est imposée depuis très récemment, depuis 150 ans. Mais ça façonne nos imaginaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les effets politiques et sociaux que produit cette notion et cette catégorie. C'est-à-dire, pourquoi on l'emploie? Par exemple, le titre, c'est « On n'arrête pas le progrès ». Je me suis intéressé à la façon, aux premiers usages de cette expression. À quel moment cette expression « On n'arrête pas le progrès » apparaît? C'est assez fascinant. C'est dans les années 1880-90 que l'expression commence à surgir dans la presse et plein d'acteurs l'utilisent. Et ils l'utilisent pour dire quoi? Ils l'utilisent au moment où on commence, notamment au début du XXe siècle, dans les années 1900, lorsqu'on critique l'arrivée de l'automobile, lorsque toute une série d'acteurs s'interrogent sur la pertinence d'utiliser des automobiles, qui est une sorte de pratique bourgeoise, aristocratique, qui ne sert à rien.
Et qui fait peur aux piétons.
Et que les classes populaires refusent parce que ça écrase les poules dans les villages, etc. Et face à cette grande levée de boucliers contre l'automobile, vous avez plein d'articles dans la presse automobile qui disent « on n'arrête pas le progrès ». Et l'automobile étant devenu le nouveau totem du progrès, on ne peut pas arrêter l'automobile, on ne peut pas discuter même de l'automobile. Ce qu'on appelle le progrès, c'est un outil à empêcher tout débat démocratique. Puisque tout choix technique est toujours un choix sociopolitique. La technique, c'est une manière d'agencer des rapports sociaux, c'est une concrétisation de sociopolitique. Donc dire qu'on n'arrête pas le progrès et que le progrès s'identifie à certaines innovations, c'est empêcher en fait le débat qui est naturel, qui est normal, qui devrait même être indispensable, plus aujourd'hui qu'à aucun autre moment. Et le progrès a servi à ça, en fait, fondamentalement, à empêcher les débats sociopolitiques sur les choix que notre société faisait.
Alors, il y a plein de mots pour exprimer justement ces idées, le système techno-scientifique, par exemple, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui critiquent sévèrement ce système, Hannah Arendt, par exemple, Jacques Ellul, et qui se font tacler par des économistes, un peu comme aujourd'hui on tacle les bobos écolos, finalement, hein.
Ah mais de toute façon, la disqualification par le renvoi du côté de l'obscurantisme ou de l'anti-progrès est quelque chose de très ancien. Moi, j'avais commencé en étudiant les ouvriers qui cassaient les machines au 19e siècle. Et l'affirmation du progrès technique était une réponse des économistes à ces critiques, à ces débats sur les effets sociaux des premières machines au début de l'industrialisation. Et donc, ça a toujours servi, ce que je disais, à mettre de côté, à marginaliser des arguments qui sont souvent des très bons arguments. Donc évidemment, Jacques Ellul est un exemple, mais il y en a plein, Günther Anders, Hannah Arendt, si vous voulez, ça a toujours servi à ça. C'est-à-dire que cette relance du discours du progrès qui empêche d'interroger, d'ouvrir la boîte noire de ce qu'on met derrière le progrès, justement.
Vous venez de parler des ouvriers qui cassaient les machines, on peut faire un parallèle aujourd'hui. On a le ministre de l'Intérieur qui a traité d'éco-terroristes des personnes qui ont cassé une méga-bassine et blessé aussi des CRS, qui ont été blessées elles-mêmes également. Comment vous regardez ces sabotages, ces actions de plus en plus, non pas violentes, mais radicales en tout cas?
Mais on a dit la même chose des faucheurs d'OGM en 2002-2004, on a dit ça
Est-ce qu'on aurait dit ça des ouvriers dont vous parliez à la fin du 19e?
Bien sûr, c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai étudié aussi dans différents textes, c'est ce qu'on disait très clairement des ouvriers, on les renvoyait aux côtés de la violence. Donc bien sûr, bon, pour dire les choses très clairement, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur sur les manifestations autour des méga-bassines, c'est scandaleux. C'est-à-dire que c'est scandaleux, mais ça s'inscrit dans une rhétorique qui est bien présente. C'est tout le renvoi déjà des écolos au refus du progrès. C'est
la lampe à huile, les Amish.
Oui, donc ce que dit le ministre de l'Intérieur, ça correspond à ce que disait le président de la République. Donc c'est parfaitement normal. C'est juste une stratégie de disqualification médiatique. Il faut bien voir ça. Il s'agit de faire peur, il s'agit de dramatiser et il s'agit de construire. Il s'agit de construire l'opposant politique en ennemi et en barbare.
Bruno Le Maire parlait des rouges. Hein. C'est pareil, les éco-terroristes, les rouges.
C'est dans les années 90 qu'on a parlé des écolos comme les pastèques là, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur aux États-Unis, lorsqu'il s'agit de disqualifier l'écologie en la présentant comme le nouveau visage de la régulation communiste.
Mais que dit l'histoire là-dessus? C'est-à-dire que si on se projette même dans 100 ans, que pensez-vous pourrait dire l'histoire sur ce qui se passe aujourd'hui?
Mais moi, je pense que les mégabassines, comme d'autres grands projets techniques actuels, doivent être discutés parce qu'ils sont très incertains. Il apparaît évidemment que les mégabassines, c'est une manière de sauver l'agriculture intensive pour arroser les grands champs de maïs dans le sud-ouest. Donc ces choix visent en fait à éviter des changements plus radicaux. Or aujourd'hui, on sait que ces changements radicaux sont indispensables. Donc ces manifestants, 8000 personnes qui vont manifester contre des mégabassines, qui prennent un week-end.
C'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup.
C'est énormément.
Et c'est magnifique pour la démocratie d'une certaine manière. Ça montre à quel point les citoyens sont conscients, sont prêts à agir. Il y a un vrai débat qui s'engage sur les mégabassines, c'est un exemple. Il y en a tellement d'autres. Chaque contournement autoroutier, chaque grand projet d'infrastructure.
Mais il y a des gens qui vont vous traiter d'historien radical, par exemple, là, qui vont vous écouter.
Et oui, doute, en sortant de l'émission, je recevrai des mails d'insultes en disant que je suis bourré d'idéologie. Mais vous savez, c'est le problème classique. L'ennemi est toujours l'idéologue. Mais soi-même, on ne l'est pas. Et vous croyez que Gérald Darmanin, quand il tient ce genre de discours tellement scandaleux dans les médias, il n'est pas lui-même totalement idéologique? Donc, c'est ça qui est terrifiant. Mais même Emmanuel Macron, quand il vante le modèle start-up, c'est une caricature, le modèle start-up. Donc, il est lui-même idéologique.
Allez, on y revient dans un instant. Non, mais je vous en prie, on a encore largement le temps pour en discuter puisque vous êtes notre invité jusqu'à 15h. François Jarry, autour de cet ouvrage, on arrête parfois le progrès.
France Inter, la Terre au carré.
Et on passe au vert avec vous, Camille Cronier.
Et je vous emmène très très loin sous l'eau aujourd'hui, à des kilomètres de profondeur, dans les abysses, dont on sait moins de choses, disent beaucoup, que sur le sol de la Lune. La grande majorité des fonds marins est inconnue parce qu'inexplorée. Et cette question est devenue ces derniers temps assez glissante, on va dire, parce que certains, non pas scientifiques mais industriels, voudraient non pas explorer, mais exploiter le plancher océanique. Vous comprenez que la nuance est de taille. Question abordée l'an dernier par le président Emmanuel Macron lors de sa présentation du plan de relance France 2030.
L'investissement dans le champ des grands fonds marins. J'entends déjà le débat venir. Je ne parle pas d'exploitation à ce moment-là. Je parle d'exploration.
Très prudent le chef de l'État, mais écoutez ce qu'il ajoutait juste après pour expliquer l'intérêt.
Un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares.
Les métaux rares, exemple pas anodin, hein, bien plus associé à l'exploitation industrielle qu'à l'exploration scientifique. Autant vous dire que depuis plusieurs associations et activistes ne l'ont pas lâché. Emmanuel Macron avait d'ailleurs dit cet été qu'il fallait mettre, je cite, un coup d'arrêt à l'exploitation minière. Et ce lundi à la COP27, le président a été cette fois sans aucune ambiguïté.
Je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
Voilà, interdiction de toute exploitation, engagement clair effectivement, au moment où les 30 pays membres de l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, dont fait partie la France, sont réunis en Jamaïque pour négocier, jusqu'à vendredi là, l'adoption d'un code minier ou, à défaut de consensus, d'une licence temporaire pour que des entreprises commencent à exploiter en juillet prochain, juillet 2023. Engagement salué donc par les militants, qui restent cependant vigilant, comme François Chartier en charge des océans à Greenpeace France, il est justement à Kingston.
Tout n'est pas gagné, attention, soyons pas naïfs, maintenant on n'a pas encore une majorité d'États qui s'opposent à l'extraction, on a encore beaucoup de pays qui veulent que le code minier soit adopté en 2023. S'il n'y a pas une majorité qui va dans le sens de cette déclaration, c'est-à-dire que ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide tout seul pour les eaux internationales, c'est pour ça que la France doit se mobiliser avec les États qui vont dans le même sens, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Chili, Fidji, pour porter d'abord un moratoire, puis une interdiction pérenne.
Voilà, la France est la deuxième puissance maritime mondiale, donc elle a du poids, mais elle n'est pas seule, il l'a dit, c'est vrai. Et la Norvège ou plusieurs États du Pacifique, par exemple, sont eux à fond pour exploiter le cobalt, le nickel, le cuivre ou le manganèse des océans. D'ailleurs, des tests sont en cours en ce moment.
C'est dans ce qu'on appelle la zone Clarion-Clipperton, au milieu du Pacifique, entre Hawaï et la Polynésie et la côte d'Amérique du Sud. C'est l'État de Nauru qui a une concession d'exploration. Et c'est un navire, alors quand on parle d'exploration, il faut voir que c'est de l'exploration minière. Imaginez un collecteur de 80 tonnes, une sorte de bulldozer qui a 6 000 mètres, qui ramasse ces fameux nodules. Ils ont pour objectif de ramasser quand même 3000 tonnes, donc on n'est pas dans de la recherche scientifique. On est dans une entreprise qui se prépare à aller exploiter commercialement ses ressources.
Voilà, mais officiellement exploration. Alors au-delà de s'en mettre plein les poches, le but c'est d'extraire ces métaux pour fabriquer en particulier des batteries, hein, notamment pour les voitures électriques. Et pourquoi au fond de l'océan ?
Les arguments mis en avant par l'industrie minière, c'est que ce sera mieux que l'industrie terrestre.
Bah tiens, personne ne voit les dégâts comme ça. Raphaël Seguin trouve ça ultra malhonnête. Il est biologiste marin et mobilisé contre cette exploitation avec des arguments étayés pour le coup.
Forcément, on parle de destruction de la biodiversité marine, d'une biodiversité qu'on commence tout juste à découvrir, et notamment des organismes qui sont benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur le plancher océanique et qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi potentiellement un relargage de sédiments avec des métaux toxiques dans la colonne d'eau qui pourraient s'accumuler dans la chaîne alimentaire. On parle aussi de pollution sonore, donc là il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que l'exploitation minière des fonds marins, la pollution sonore qu'elle génère, pourrait s'étendre jusqu'à 500 km autour de la zone minée. Et enfin, il y a les impacts sur le climat qui sont encore pour le moment très très mal connus. Mais il faut rappeler que l'océan, c'est notre principal allié pour le climat. Il séquestre environ un tiers de nos émissions de CO2. Et exploiter les fonds marins, c'est-à-dire les abysses, qui sont un peu le coffre-fort à carbone de l'océan, ça pourrait perturber ce rôle de régulation du climat qu'a l'océan. Et ça pourrait aussi, à terme, remettre en suspension du carbone dans la colonne d'eau et le renvoyer dans l'atmosphère.
Voilà, c'est bon, vous avez le tableau. Et puis François Chartier à Greenpeace souligne un autre point sur le pourquoi de tout ça.
C'est comme si on passait d'une société reposant sur les fossiles à une société reposant sur les métaux. Pour nous, on pense que c'est une fausse solution.
Voilà, dans tous les cas, on détruit et on met donc en péril la vie sur Terre. L'activiste Camille Etienne est mobilisée avec Raphaël Seguin et d'autres dans l'opération Look Down pour regarder aussi les grands fonds et les laisser tranquilles.
Si on trace cette ligne rouge-là, alors on évite de laisser la porte ouverte à tous ces bateaux et toutes ces machines qui vont aller potentiellement ouvrir les puits de carbone et détruire des écosystèmes marins dont on dépend. Donc c'est vraiment pour une fois une bonne nouvelle. Maintenant, on essaie d'avoir d'autres victoires sur plein d'autres sujets. C'est qu'un début.
Le suspense risque bien de durer jusqu'à juillet prochain, mais les ONG comptent quoi qu'il arrive sur la France et donc son président.
Eh bien, puisqu'il a dit qu'il condamne l'exploitation minière des fonds marins, il peut absolument compter sur nous pour ne pas le lâcher et qu'au moins on puisse protéger nos eaux. Ce serait déjà une grande victoire parce qu'on a quand même une très très grande zone française.
Interdire l'exploitation sur plus de 10 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie des eaux françaises, et éviter de détruire les abysses avant même de les connaître.
Voilà, c'était Camille Passauvert que vous réécoutez sur la page de l'émission, et notre invité François Jarige qui a dû prendre, je sais pas, au moins une page de notes avec votre chronique, Camille.
François Jarige, c'est une illustration quand François Chartier de Greenpeace dit voilà, on passerait d'une société qui dépend des fossiles à une société qui dépend des minerais, c'est exactement la course en avant dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, surtout qu'on est déjà dans une société qui dépend des minerais et d'une société qui dépend des fossiles. Et la société future qui se prépare dépendra encore des fossiles, puisque pour fabriquer les voitures électriques, il faut des métaux rares, mais il faut aussi beaucoup de fossiles. Donc l'idée qu'on passerait d'une société fossile à une société des métaux a peu de sens. Hein. Les deux fonctionnent ensemble.
Donc si on prend l'exemple précis des voitures électriques, juste la France, si on remplace les 40 millions de voitures thermiques aujourd'hui par les 40 millions de voitures électriques, ça fera peut-être du bien un peu à la pollution de l'air, mais ça ne changera strictement rien dans le fond.
Mais bien sûr que ça ne changera strictement rien dans le fond. Mais si vous voulez parler des voitures électriques, je ne suis pas spécialiste de la motorisation automobile actuelle, mais bien sûr que ça ne changera rien dans le fond. Mais je pense que tout le monde le sait, que ça ne changera rien dans le fond.
Bah, ce n'est pas le récit qu'on nous en fait.
Ça dépend quel récit on regarde. Si on regarde les récits dominants dans la communication politique, c'est ce qu'on entendra. Si on regarde aussi ce que disent les grandes entreprises qui essayent de sauver leur marché, fondamentalement, c'est quand même ça le cœur du problème. En fait, là, on est sur le mythe de la substitution. C'est le mythe de la substitution qui fonctionne depuis le début de l'industrialisation. C'est-à-dire, vous avez un problème écologique, de limite en termes de ressources, vous allez changer de système technique pour passer d'une ressource à une autre. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple à la fin du 19e siècle quand on est passé au pétrole et à l'électricité, on pensait que ça allait résoudre le problème du charbon. Sauf qu'on s'est rajouté les problèmes du pétrole et de l'électricité avec les problèmes du charbon, puisque les deux ont continué d'augmenter.
Donc on empile les choses.
C'est
toujours,
ce qui s'est passé. C'est exactement l'histoire des 150 dernières années. On empile les choses. On empile les choses sans résoudre les problèmes. C'est ce qui se passe avec la voiture électrique. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, hein, notamment. Donc La voiture électrique, en plus, évidemment, en France, on va les faire fonctionner avec du nucléaire. Mais dans le reste du monde, on va les faire fonctionner avec du charbon et du pétrole. Et que l'électricité, c'est juste un vecteur énergétique. Ça déplace l'énergie d'un point A à un point B. Dans tous les cas, il faut la produire, l'électricité. Et donc, pour ça, on a besoin de sources d'énergie primaires, que ce soit le pétrole, l'uranium ou un autre. Et chacune de ces sources d'énergie primaires pose des problèmes environnementaux, d'extraction, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. Et donc, l'idée de substitution ne marche pas. C'est un mythe. Mais évidemment, elle est entretenue par les entreprises parce que les entreprises sont paniquées. Vous vous rendez compte? Les grands groupes automobiles, s'ils doivent arrêter de construire des voitures. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va pas leur dire d'arrêter de construire des voitures. Au contraire, les voitures électriques vont être beaucoup plus chères. Les voitures électriques vont être beaucoup plus lourdes. Les impacts environnementaux seront peut-être même pires que les voitures thermiques actuelles. Mais ça va permettre de relancer le taux de croissance et le taux de profit de ces grands groupes multinationaux. C'est ça qui est totalement terrifiant. Et le problème, c'est que les hommes politiques, pour la plupart, ont peu de leviers d'action. Peu de leviers d'action politiques, notamment à cause de la mondialisation. Du coup, la solution technique ou la substitution technique permet de dire, on va investir 20 milliards là, on va investir 10 milliards là, on va développer une nouvelle filière hydrogène ou autre, et on aura agi, on aura résolu le problème.
Mais vous êtes ministre de l'Industrie, vous avez tant de milliers de personnes qui travaillent justement sur les voitures thermiques aujourd'hui. Si la voiture électrique, c'est pas la solution, du coup, vous faites quoi de tous ces gens?
Ah, heureusement pour moi, je ne suis pas...
Mais imaginons que vous le soyez, parce que c'est quand même un vrai problème.
Il y a un moment, peut-être le point de départ du discours politique, c'est l'honnêteté, la sincérité et la vérité. Et
donc, alors qu'est-ce qu'on dit?
Et donc, je
pense qu'il faut dire qu'ils travaillent.
Il va y avoir évidemment un processus. Il faut leur expliquer que leur travail est devenu en partie obsolète. Alors, je veux pas dire, on aura besoin de voitures. Il va falloir continuer à construire des voitures. Mais par exemple, les voitures, il va falloir qu'elles soient très encadrées, très limitées, peu nombreuses, réservées à certains usages considérés comme importants. Par exemple, certains artisans ont besoin de transporter des marchandises. Faut que ces voitures soient bridées à 80-90 km/h. Faut qu'elles fassent 400 kilos avec des consommations extrêmement ridicules. Et donc, on aura un parc automobile. Donc, une partie de la main d'œuvre.
Monsieur, madame, tout le monde, plus de voitures.
Mais bien sûr, à terme, dans les 20-30 prochaines années, la motorisation pétrolière qui s'est imposée au XXe siècle, qui est très récente, il faut se rappeler que la démocratisation de l'automobile, c'est les années 50-60. Avant 1945, les classes populaires n'avaient pas de voiture. Mmh. Les classes
Donc
populaires étaient à pied et en vélo.
Donc c'est le développement des transports en commun, du vélo, d'autres modalités.
D'une part, c'est évident qu'il va falloir développer les transports en commun, mais quand on parle de transports en commun, là encore, de quoi on parle? Par exemple, quand on parle du train, c'est pas la même chose de parler des TGV qui sont des gouffres énergétiques et qui sont extrêmement complexes à entretenir et qui coûtent très cher, et des voitures. On est passé de 60 000 km de réseau ferroviaire en France dans l'après-guerre à peu près 30 000 km aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un progrès ou un regret?
Mais nos auditeurs qui vivent à la montagne ou à la campagne éloignée, par exemple, d'une gare, ils auront le droit d'avoir une voiture dans votre programme ou pas?
Je pense que oui, ils auront le droit d'avoir une voiture bridée à 90 km/h qui dure 40 ans, avec moins d'ouvriers d'automobile, mais beaucoup plus de réparateurs, de techniciens, de mécaniciens qui sont capables de faire tenir les voitures. Mais ça, c'est important. Et les classes populaires veulent ça. C'est-à-dire une voiture simple, efficace, économe, qu'on peut réparer et qu'on fait durer 40 ans. Sauf que le renouvellement incessant du parc automobile, je suis fasciné de voir toutes les grosses bagnoles qui circulent. On a l'impression que les gens changent de bagnole tous les 5 ans maintenant. Il faudrait des voitures qui durent 40 ans, qu'on répare, qu'on entretient. Il vaudrait mieux une voiture thermique qui dure 40-50 ans, qui est bridée à 100, qui consomme très peu, que des voitures électriques qu'on renouvelle tous les 10 ans. Mais évidemment, ça apporte pas les mêmes taux de profit aux entreprises qui les commercialisent, quoi.
François Jarry, j'ai l'invité de la Terre au Carré cet après-midi.
Can't see his shadow. Oh, he can block your sun all day. He can make you small. He has the power to take his love away. 6 hours on the grapevine. This time, 'cause my baby thinks he always believes that he's always right, but I still think of him at night.
Wyeth Blood sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Si tous les humains vivaient comme des Français, une seule planète Terre ne suffirait pas, il en faudrait au minimum trois. Autrement dit, la croissance économique, ce n'est pas la solution.
La croissance économique, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus d'emplois, c'est plus de salaires pour les Français. Donc il y a une attente aujourd'hui de croissance, me semble-t-il.
Sur le chemin de la décroissance, certains adoptent la méthode des petits pas. Exemple à Paris, la quarantaine d'AMAP, association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chacun à leur manière, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir consommer moins pour vivre mieux.
Le JT de France 2 en 2007 et deux visions qui s'opposaient, celle du politologue Paul Ariès et ensuite l'économiste Michel Didier. Finalement, c'est ces deux pôles-là qu'il faudrait idéalement réconcilier et qui paraissent irréconciliables justement.
Oui.
Et comment on fait alors ?
Je ne sais pas s'il faut les réconcilier. Je crois qu'il faut acter le fait que dans les années 80 a été formulée une utopie qui était celle de la croissance verte ou du développement durable, c'est-à-dire de l'idée qu'on décorrélait la croissance économique de ses impacts environnementaux. Aujourd'hui, il commence à y avoir un consensus, c'est pas moi qui le dis, il y a des publications de tous les côtés qui sortent sur le fait que cette décorrélation n'est pas possible. Notre société industrielle repose fondamentalement sur les combustibles fossiles bon marché. C'est-à-dire que ça... Donc une société sans énergie fossile, c'est une autre société que la nôtre. Une société qu'il faut réinventer, une société qui n'est pas nécessairement catastrophique, qui n'est pas nécessairement horrible, qui n'est pas nécessairement un retour aux grottes.
Alors justement, François Jarich, parce qu'on a, vous parlez de grottes, Radi nous écrit sur franceinter.fr, il vous demande si vous voulez qu'on retourne dans des grottes, et Gilles ajoute, est-ce que vous voudrez la mort de la technologie ?
Non, mais je crois que c'est des alternatives infernales qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de penser. L'alternative, c'est pas de développer les grandes technologies que nous promettent aujourd'hui les principaux acteurs, ou de revenir dans la grotte. Ce qu'on appelle technologie, c'est une catégorie encore un peu trop floue, un peu trop large. Il y a toujours plusieurs choix techniques pour réaliser des choses. L'homme est un être technique qui médiatise son rapport au monde via des dispositifs matériels. La question, c'est que ces choix, ces dispositifs matériels modèlent les relations qu'on entretient entre nous, les relations qu'on entretient avec la nature. Donc il faut faire des choix techniques qui correspondent aux possibilités de nos milieux de vie, aux possibilités de nos ressources. Donc il ne s'agit pas de revenir en arrière, ça n'a aucun sens. On ne revient jamais en arrière. On va dans le futur, mais en faisant des choix techniques. Est-ce qu'on développe l'agriculture 3.0? Est-ce qu'on développe des grandes voitures électriques? Est-ce qu'on développe l'aviation hydrogène? Donc c'est poursuivre la trajectoire actuelle qui va nous mener à un effondrement environnemental encore accéléré, ou est-ce qu'on met la technique à sa place? En fait, il faut mettre la technique en second plan. La technique doit être un outil d'accompagnement de nos décroissances matérielles.
Est-ce que la démocratie est une réponse réelle, peut-être une réponse à cette nécessité de décroissance aujourd'hui, François Jarich?
Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est une...
Parce qu'il faut embarquer tout le monde, voilà. Sinon on n'y arrivera pas. Et il faut embarquer la majorité, tant qu'à faire.
Donc c'est une nécessité. De toute façon, ces changements sont si considérables, si massifs, qu'ils ne peuvent se faire... Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont présentes actuellement. Une chose qui se dessine et qui est terrifiante, c'est que les régimes autoritaires s'emparent de la question écologique pour maintenir et mettre en place des pouvoirs autoritaires forts. C'est déjà ce qui est en train de se mettre en place dans certaines parties du monde. L'autre manière de faire, c'est de créer un consensus. C'est-à-dire, je pense que dans l'opinion publique, je pense que dans une grande partie de la société, les gens ont conscience qu'on arrive aux limites d'un système consumériste, que la consommation et la possession d'objets matériels ne permet pas le bonheur individuel. Il n'y a jamais eu autant de dépression. Il n'y a jamais eu autant d'insatisfaction dans le monde du travail, il n'y a jamais eu autant de frustration. Donc on voit bien que le monde dans lequel on est n'est pas une source d'épanouissement pour la majorité de nos contemporains. Donc ce qu'il faut, c'est trouver une manière de créer du désir, une société du moins, une société avec moins de mobilité, moins de consommation, et pas forcément une société plus douloureuse pour tous.
Mireille nous écrit que ça, elle dit, on en entend beaucoup parler, mais ça, c'est synonyme du retour d'une vie assez fruste qui fait peur à tout le monde. Ça fait peur aussi, parce que quelque part on perd, en tout cas pour les sociétés occidentales, du confort.
Moi aussi, j'ai peur, si vous voulez. La question, on a tous peur. On entend tous les jours des alertes catastrophistes qui étaient repoussées il y a quelques années comme des lubies d'écolo et qui aujourd'hui sont validées par des rapports scientifiques.
Vous parlez d'une décroissance matérielle. C'est clairement une perte de confort.
Oui, mais parce que tout cela doit s'accompagner, comme disait Serge Latouche, d'une décolonisation de l'imaginaire auparavant. C'est-à-dire, si notre rapport au monde, notre rapport au bonheur est lié à notre capacité à consommer dans les grandes surfaces des périphéries, si on n'arrive pas à voir que ça, c'est des subjectivités qui ont été construites par l'histoire, qui ont été construites.
Mais ça, c'est des formules de penseurs, parce que comment précisément on arrive à l'inscrire dans une réalité des gens qui nous écoutent, dans une société où même avec la prise de conscience dont vous parlez, beaucoup, la majorité, sont pas prêts à renoncer à la bagnole, par exemple.
Bien sûr, mais il y a plein de gens qui voudront pas renoncer à des objets, à des pratiques qui aujourd'hui se sont démocratisées, mais on pourra pas faire autrement.
Vous avez une voiture, vous ?
J'ai une voiture.
Mais il n'a pas de portable.
Mais j'ai une voiture, mais justement, j'essaye d'avoir... Oui, bien sûr, mais ça, c'est la question. Oui, alors j'ai une voiture, j'ai une vieille Guimbarde que j'utilise très peu, mais comme j'habite à la campagne, justement, je me suis mis à côté d'une gare TER pour ne pas être dépendante de la voiture, mais j'ai deux enfants, et donc j'ai une voiture. Donc j'essaye d'avoir un usage rationnel. Et donc je suis très bien placé pour comprendre ce qu'est la situation des ruraux. Moi, je suis dans un petit village de 500 habitants en Bourgogne. Donc, vous voyez, donc mon rapport à la voiture. Mais en même temps, je suis à côté d'une gare et je me déplace en train, sauf parfois. Notamment parce que, effectivement, et je pense que dans les campagnes, il y aura besoin de voitures. On va pas sortir de la voiture en 10 ans. Toutes nos infrastructures, tous nos imaginaires, toutes nos pratiques sociales sont liées. Aujourd'hui, avoir une voiture en ville, ça n'a aucun sens, par contre.
Et ce refus du portable, François Jarige, c'est politique, c'est citoyen, c'est quoi comme décision pour vous?
Non, c'est parce que je trouve que c'est un confort tellement, c'est un énorme confort de pas avoir de portable.
C'est pas...
Mais je pense que c'est une réponse aussi à ce que vous disiez. Mais si vous voulez, c'est pratique, mais la notion de pratique, faut la déplier, faut l'ouvrir. Moi, je trouve que c'est une aliénation terrible, le portable. J'aime pas qu'on me sonne, je suis peut-être un peu trop associable, et donc j'ai pas besoin d'être en permanence connecté à mes contemporains. Par ailleurs, je suis déjà trop connecté à mes mails en permanence, donc si je peux me déconnecter un peu, je suis ravi. Et c'est l'exemple. C'est-à-dire que, en 10 ans, on a créé de nouvelles dépendances, de nouvelles subjectivités qui nous conduisent encore plus vite dans la crise écologique. Le portable est un exemple magnifique. Tout le monde sait que c'est une catastrophe environnementale, une catastrophe écologique.
Mais les mails aussi, vous dites que vous êtes dans vos mails.
Bien sûr,
les mails aussi.
Mais les mails aussi, mais tout d'une certaine manière. Donc il faut qu'on diminue nos consommations les plus prédatrices. Il y a un consensus là-dessus. Maintenant, il faut trouver les manières de le réaliser. Ça se passe par des transformations culturelles. Vous avez raison, ça c'est des formules vides qui ne veulent rien dire.
Mais
qui commence à s'opérer.
Les transformations culturelles, ça prend un temps fou. Et l'urgence écologique ne le permet pas, quasiment.
Ça a sans doute déjà commencé. Il faudra aussi des régulations. Alors, des régulations, et c'est pour ça que les régulations, elles doivent commencer par les privilégiés les plus riches.
Régulations ou interdictions? Parce que...
Des régulations qui peuvent être des interdictions. Il y a plein de choses qu'il va falloir interdire. En gros, il faut d'abord démystifier les fausses croyances. Ensuite, il faut démanteler les trucs les plus prédateurs. Et ensuite, il faut réinventer un milieu technique et un milieu de vie qui soit plus en phase avec nos situations écolo. D'où le low-tech, qui est un enjeu très important aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de revenir à la lampe à huile. Il s'agit de développer des technologies qui soient en phase avec nos aspirations à plus d'égalité et à plus d'écologie.
François Jarige, quand vous quittez votre table de travail ou votre salle de cours avec vos élèves, vous vous dites qui est capable de mener finalement ce combat-là dont vous parlez, en tout cas de mener la société vers cette vision-là qu'on entend depuis le début de l'émission.
Non, je pense pas que personne soit capable. Il n'y a pas de sauveur. Moi, dès que quelqu'un se présente comme un sauveur, dès que quelqu'un se présente comme ayant une solution, il faut d'emblée fermer la radio et arrêter de l'écouter.
Alors, comment on fait?
Il faut déjà que le pouvoir politique soit honnête et arrête d'entretenir des fausses promesses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bilan qui soit partagé sur la situation. Et c'est ça le paradoxe dans lequel on est. Il y a à la fois une sorte dans les discours publics, il y a d'un côté la reprise des discours écologistes, et de l'autre côté, il y a la relance des promesses qui sont portées en fait par les grands groupes industriels pour résoudre le problème. Et là, il y a une décorrélation. Il faut que les hommes politiques fassent preuve d'honnêteté en disant qu'on est dans une situation d'impasse, dans un nœud de problème. Et donc, effectivement, il va falloir réguler, il va falloir reconnaître qu'il y a des sortes de pratiques qui ne sont plus acceptables. C'est pour ça que le fait qu'on soit même pas capable d'interdire le vol en jet privé de certaines franges de l'élite sociale est une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, on fait peser en fait sur les classes populaires, sur les classes moyennes, l'ensemble de la responsabilité de la transition écologique.
Oui, mais les arguments pour ne pas le faire, c'est de dire, de toute façon, ça ne représente qu'une petite partie. Donc effectivement, le faire, ça serait plutôt symbolique qu'autre chose. Et ça pourrait cliver aussi encore plus certaines catégories de population.
Bon, là, vous m'amenez, comme je viens de dire, personne n'a la solution et j'ai pas plus la solution qu'un autre. Donc je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. J'essaye de vous présenter comme historien comment s'est mis en place cette situation d'impasse dans laquelle on est. Et à partir du moment où on voit dans la situation d'impasse, on essaye de comprendre un peu les leviers sur lesquels on peut agir. Et je vous dis que le premier levier, c'est un minimum d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire que la maison brûle, que la situation est catastrophiste et en même temps annoncer qu'on va passer l'ensemble du parc automobile du thermique à l'électrique en 15 ans. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que c'est pas faisable techniquement, c'est pas faisable sur le plan énergétique, c'est pas faisable sur le plan écologique des métaux et autres. Et donc, il faudrait commencer à préparer les gens sur le fait que nos pratiques de mobilité doivent changer. Le fait que le tourisme en avion se soit démocratisé depuis très récemment, depuis les années 80-90. Il faut dire que le tourisme en avion à l'autre bout du monde est quelque chose du passé.
Mais alors, François Jarige, parlons des énergies renouvelables, par exemple. Qu'est-ce que vous en faites, alors, qui sont des outils présentés comme, évidemment, d'avenir pour la transition écologique, les parcs solaires géants, les batteries toujours plus performantes, le recours à l'hydrogène, les éoliennes, tout ça, vous balancez ça à la poubelle?
Mais bien sûr que non. Alors, j'étais invité au départ pour parler d'un livre qui s'appelle « Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives et renouvelables » où avec un collectif d'historiens, on a essayé de refaire l'histoire de ces trajectoires oubliées, puisqu'en fait, toute l'histoire des énergies est souvent résumée à l'accumulation de fossiles, et cette accumulation de fossiles a toujours posé problème. Dès les années 70, j'ai étudié les débats sur le solaire, les premiers moteurs solaires dans les années 70, qui visaient à répondre aux impasses de la dépendance au charbon. Donc ça, c'est très régulier. Dans les années 30, en Floride, vous aviez une grande partie du chauffage qui se faisait avec du solaire passif. Quand est arrivé le pétrole en masse, on a tout démantelé pour mettre en place du chauffage au fioul, parce que ça permettait de créer des marchés. Donc on a besoin des énergies renouvelables. Le problème sur les politiques du renouvelable, c'est qu'on veut faire la même chose avec le renouvelable qu'on faisait avec les fossiles et avec le nucléaire. Or, une société avec des énergies renouvelables n'est pas la même société qu'une société avec des énergies fossiles. Et c'est ça qu'il faut accepter. Or, on croit qu'on va faire avec ce qu'on a fait avec le fossile, avec le renouvelable. Et là, c'est pas possible. Ça va créer des frustrations. Et si on veut faire, évidemment, produire autant que on produit d'électricité avec le nucléaire, avec des éoliennes, il va falloir en mettre partout. Et là, les éoliennes vont susciter des rejets de tous les côtés. Parce qu'une société qui repose sur l'intermittence, qui repose sur ce type de convertisseurs qui sont les éoliennes, ne peut pas être la même société qu'une société fossile ou une société nucléaire. Et c'est ça. Donc, évidemment qu'on a besoin le renouvelable seront des technologies d'atterrissage ou de décroissance. Donc, c'est pareil, on va pas se passer du pétrole en 5 ans. Et donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il peut pas, les renouvelables sont indispensables, il faut les développer, mais il faut les développer en pensant les questions sociales et les modes d'organisation politique.
Un message de Little Big Fred sur Twitter qui dit « Le progrès est un mythe, dites-vous. Espérance de vie moyenne en France en 1945 ans. Aujourd'hui, on est plus vers les 80, je ne sais pas le chiffre exact, l'âge exact. Que dites-vous aux gens qui disent ça? Arrêtez de dire qu'on faut revivre, venir avant. »
J'ai jamais dit qu'il fallait revenir avant. J'ai dit
en tout cas qu'on vit mieux aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'on vit mieux aujourd'hui.
Donc, bien sûr, l'espérance de vie est l'un des principaux indicateurs. Alors la question, ça pose plein de questions. C'est difficile d'y répondre en 30 secondes. Non, on va pas nier qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie. La question, c'est à quoi est liée l'augmentation de l'espérance de vie. L'augmentation de l'espérance de vie, est-ce qu'elle est liée aux infrastructures technoscientifiques les plus lourdes et les plus complexes?
Aux progrès médicaux aussi.
Elle est liée pour l'essentiel à l'amélioration de l'alimentation, à des règles d'hygiène de base, à un certain nombre de médicaments très peu nombreux qui ont permis de lutter contre une grande partie des maladies. Par ailleurs, je souligne que ce qu'on appelle l'espérance de vie aujourd'hui, on peut en discuter, c'est il y a une stagnation, il y a l'explosion des maladies environnementales qui fait que les progrès de l'espérance de vie tendent plutôt à stagner. Donc, si on veut continuer, on a sans doute...
Elle baisse même dans certains pays.
Elle baisse même dans plein de pays, effectivement.
Occidentaux.
Donc, la question... Donc ça, c'est un argument qui revient en permanence. La question n'est pas de revenir au Moyen-Âge encore, ça n'a aucun sens. La question, c'est savoir quel chemin on construit pour l'avenir. Est-ce qu'on continue à faire comme avant? C'est ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas zoer la face. Ou est-ce qu'on essaye de construire et d'inventer un autre monde? Et c'est cet autre monde, évidemment, je n'ai pas de solution, je n'ai pas voulu le présenter clé en main, et si je le faisais, je passerais pour un abruti. C'est juste qu'il faut construire ça, et vous y contribuez, comme moi dans mon travail d'historien, et on essaye tous d'y contribuer.
Est-ce qu'on construit l'avenir en ce moment à Sharm el-Cheikh, à l'occasion de la COP27, François Jarige?
Est-ce qu'on construit l'avenir? Bah oui, il y a des gens qui construisent l'avenir.
Autrement dit, est-ce que ça sert à quelque chose, ces COP?
Oui, sans doute, ça sert à quelque chose. Ça sert à créer un consensus scientifique. Ça a joué un rôle très important pour l'élimination des climato-sceptiques les plus bornés. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a atteint la frontière puisque le consensus scientifique est là. Donc, le débat est plus sur le consensus scientifique. Donc, d'une certaine manière, ces COP ont moins de pertinence. Bon, une COP en Égypte, dans un des pays les plus dictatoriaux actuellement, ça pose tellement de problèmes. Bon, tous les observateurs disent bien qu'il n'y a pas grand chose va en sortir. Donc c'est une nouvelle COP pour rien qui aura permis de refaire ses alertes, de réoccuper un peu le temps d'antenne sur ces sujets-là, c'est déjà ça. Mais qui croit que quelque chose va sortir de la COP en Égypte?
Le GIEC qui parle de sobriété dans un de ses derniers rapports, là, c'est quand même plutôt positif, ça.
Donc, il y a des éléments qui peuvent être considérés comme positifs. On voit bien qu'il y a un changement d'imaginaire qui est déjà en marche. Je veux dire, tous les jeunes qui démissionnent pour pas bosser dans les grandes entreprises polluantes, le fait que le langage qui était considéré comme inacceptable il y a 10 ans soit désormais repris par des acteurs économiques et politiques, c'est déjà une bonne chose.
Merci
si
beaucoup.
Si on veut finir sur une note positive, parce qu'il faut toujours finir sur une note positive.
Il connaît bien les médias, François Jarige. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi dans La Terre au Carré. On arrête parfois le progrès, histoire et décroissance. Ces chroniques donc sont publiées, ces articles aux éditions de L'Échappée. Merci beaucoup d'être venu nous voir cet après-midi.
Merci à vous.